Nouvel expert et un adage qui dit que les voyages forment la jeunesse. À l'heure d'une volonté affichée de se tourner vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, la collectivité territoriale de Guyane lance l'opération REACT. Pour vous en parler plus en détail, le troisième vice-président de la CTG, Thibault Lechat-Vega, expert du jour invité. Et merci d'avoir répondu d'ailleurs à notre invitation. Et sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du programme des fonds européens Interreg, qu'est-ce que c'est justement? Qu'est-ce que c'est les fonds Interreg pour les néophytes qui ne connaissent pas ce programme?
Déjà, peut-être...
Interreg Caraïbes.
Oui. Alors déjà, peut-être commencer par vous saluer tous ceux qui nous écoutent. Oui. Hein. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être avec vous, Madame Sesto, et d'être au micro de la Radio du Savoir, surtout pour venir parler de mobilité, notamment des étudiants agricoles, donc sur ou mieux que sur la radio du campus. Mais alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est qu'Interreg Caraïbes? Interreg Caraïbes, en fait, ce sont les fonds européens pour la coopération de la zone de l'espace Caraïbes, et où la Guyane participe, parce que nous participons de deux fonds de coopération, ce qu'on appelle souvent le PO Amazonie, le PCIA, qui sont les fonds de coopération pour la zone Guyane-Suriname-Guyana-Brésil, donc c'est ce qu'on appelle le PO Amazonie, et aussi pour la zone Caraïbes, qui est gérée pas par la Guyane, mais par la Guadeloupe cette fois-ci, et à laquelle nous participons. Donc c'est deux fonds qui sont donnés par Bruxelles pour faire de la coopération dans pas mal de sujets, de la coopération économique, de la coopération sanitaire, de la coopération culturelle, et là, comme on va le voir, c'est de la coopération en matière d'éducation.
Très bien, donc pourquoi on entend moins parler de cet Interreg Caraïbes? On a plus l'habitude d'entendre parler de l'Interreg ou PO Amazonie, en fait, parce qu'il couvre notre bassin, on va dire notre bassin de vie, entre guillemets.
Oui, voilà, c'est sûr que alors la grosse différence, c'est que le PO Amazonie, c'est nous qui le gérons, c'est la CTG qui est gestionnaire, donc déjà, donc nous en assurons la communication, donc peut-être qu'on communique plus comme on est sur le territoire qui le gère, aussi parce que c'est notre environnement géographique direct, on est inséré dans le bassin amazonien, mais la Commission européenne est partie d'un constat, c'est vrai que géographiquement on est dans cet espace amazonien, et d'ailleurs il y a une volonté de s'insérer mieux dans cet espace amazonien, mais économiquement et culturellement on participe aussi à l'espace caribéen, et d'ailleurs nos voisins que sont le Suriname et le Guyana sont membres du CARICOM. Donc parce que historiquement, déjà nous parce que nos partenaires privilégiés en réalité ce sont les Antilles françaises, la Guadeloupe, la Martinique qui sont nos partenaires économiques, politiques, culturels privilégiés, même si je le disais on veut s'insérer toujours plus dans cet environnement amazonien, et parce que donc c'est pour ça qu'on participe à ce fonds là qui est aussi un fonds important.
Très bien, donc comment ça s'est passé entre guillemets pour ce programme avant que vous nous expliquiez un petit peu, que vous nous présentiez tout simplement?
Comment ça fonctionne? C'est comme je disais, c'est un programme qui est géré par la Guadeloupe, et chacun des territoires est représenté dans une commission, dans un comité de pilotage, et donc pour la Guyane, le représentant de la Guyane, donc c'est moi, puisque je suis le vice-président à l'Europe de la collectivité territoriale de Guyane, sous le leadership bien évidemment du président Gabriel Serville, mais c'est moi qui y siège, il m'a donné délégation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette commission se réunit tous les ans pour un comité de pilotage, et on décide ensemble de différents projets de coopération qui vont avoir lieu pendant l'année suivante dans cet espace caribéen. Et donc lors de la dernière lors du comité de pilotage, mon premier comité de pilotage en tant que troisième VP de la CTG, c'est-à-dire ça a eu lieu en octobre, lors du dernier comité de pilotage, nous avons donc voté cette enveloppe dont on va parler aujourd'hui, qui sont les 1,150 millions d'euros pour ce projet Interreg REACT. Qui peut porter à confusion, on va peut-être en parler, parce que REACT, ça fait penser au plan de relance européen qui s'appelle aussi REACT-EU, mais c'est un jeu de mots, c'est deux choses complètement séparées. REACT-EU, c'est le plan de relance de l'Union européenne, dont les fonds d'ailleurs en Guyane sont gérés par la CTG aussi, et l'Interreg REACT, c'est un programme de coopération et d'échange des étudiants, des apprenants plus généralement, pas que des étudiants. Et on va voir c'est quoi la différence entre apprenants et étudiants dans le domaine agricole.
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut parler justement de ce projet REACT qui est cette opération qui est réseau d'enseignement de l'agroécologie dans la Caraïbe avec ce T transition.
Voilà, alors c'est un très très beau projet. C'est un projet qui est porté par le lycée agricole de Matiti. Et d'ailleurs, je veux saluer vraiment l'engagement de la chef de projet, Madame Lumeto, qui est professeure au lycée agricole, qu'il me semble que vous aviez d'ailleurs convié, mais qui est actuellement à Cuba, dans justement qui est en train de monter un autre projet de mobilité, donc qui est avec les élèves à Cuba en ce moment. C'est un très très beau projet qui a été monté donc par le lycée. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire... en Guyane, on a cette ambition d'être indépendant en matière alimentaire et notamment des produits agricoles. Il y a aujourd'hui un outil qui est l'outil Erasmus+, qui permet à nos étudiants d'aller se former dans l'Europe. C'est très bien, c'est très intéressant, mais peut-être que ça serait pertinent d'envoyer nos jeunes et aller se former dans des pays plus proches de nous, mais qui ont l'avantage de partager pour beaucoup les climats et aussi les espèces et les variétés qui sont cultivées, d'aller voir ce qui se fait dans nos pays voisins et de ramener cette expérience en Guyane, ramener tout ce qu'il y a de meilleur chez les autres, notamment avec ce focus, comme vous l'avez dit, de l'agroécologie, c'est-à-dire toutes les méthodes de l'agriculture de demain qui vont permettre d'avoir une agriculture qui soit en phase avec les enjeux de demain, qui sont les enjeux de la transition écologique et du défi climatique.
Donc merci pour cette explication, ça je pense un petit peu plus clair pour nos auditeurs et les internautes. Est-ce qu'on pourrait penser justement à la transposition de l'opération, j'y reviens, j'insiste un petit peu sur le sujet, sur notre bassin, donc au niveau de nos voisins, et je vais vous poser encore une autre question sur comment a été opéré ce choix au niveau des différents pays. On pourrait penser également au Costa Rica qui est aussi reconnu un modèle en termes d'écologie et notamment d'agroécologie avec beaucoup de similitudes avec notre territoire.
Alors, ce qu'il faut, je sais qu'il y a, parce que lorsqu'on a fait la communication avec la CTG et avec le fonds Interreg, un reproche qui a été fait, c'est vrai, c'est de dire, mais pourquoi on envoie les gens à Trinidad et Tobago ou à Curaçao, ou c'est à Aruba, pardon, et pourquoi on les envoie pas au Brésil? Alors, c'est pas exclusif. Il y a actuellement, aujourd'hui, des programmes de coopération entre la Guyane et le Brésil.
On va en parler.
Nous envoyons déjà des élèves au Brésil. Mais là, c'est un programme spécifique et c'est un programme qui rentre, comme on l'a dit, dans ce programme Interreg Caraïbes, qui est un programme qui concerne la Caraïbe. Mais c'est pas parce qu'on ne fait pas, on fait des choses avec la Caraïbe que ça nous empêche de faire des choses avec les autres pays voisins. Il se trouve que là, les sous, l'enveloppe, l'appel à projet concernait la Caraïbe. Donc nous, on a vu qu'il y avait des sous qui étaient mis par Bruxelles. On s'est dit, allons profiter de cette enveloppe qui existe. Et d'ailleurs, je vous le dis, à la base, les sous, ils n'étaient pas destinés à la Guyane. Je ne vais pas le dire quel autre territoire, mais c'était, comme d'habitude, un autre territoire de l'espace caribéen qui devait bénéficier des sous. Et nous, on est monté au créneau avec la porteur de projet, avec Madame Lumeto, mais aussi avec les services de la CTG. Il y a un énorme travail des services, qu'on dit services métiers, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent de ça à la CTG, pour montrer que non, nous étions en capacité de monter ce projet-là en Guyane, et surtout qu'il y avait une vraie demande, parce que, il faut le dire, on le répète, la Guyane, c'est le seul territoire français qui augmente sa surface agricole. C'est un petit peu normal parce qu'on augmente la population d'à peu près 2,5% par an, et c'est surtout, pour vous donner un chiffre, en 10 ans, on a augmenté de 40% le nombre d'agriculteurs. Et il faut les former, ces agriculteurs, il faut... les former aussi aux méthodes, on a dit, de l'agroécologie, mais aussi les former pour que ça soit plus productif, parce que en ayant des méthodes qui permettent d'augmenter la productivité, ça permet quoi? Ça permet de baisser les coûts. Et baisser les coûts, ça veut dire quoi? Ça veut dire des prix qui sont plus bas pour le consommateur et mieux rémunérateurs pour l'agriculteur. Des prix mieux rémunérateurs pour l'agriculteur, ça permet aussi de susciter des vocations, parce que l'agriculture, c'est quand même un métier qui est difficile. Donc, voilà, ça participe à l'attractivité de la filière, ça participe à l'indépendance alimentaire. Donc, ce n'est que bénéfique. C'est 1,2 million d'euros c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour la filière.
En termes de normes, puisque lorsqu'on parle d'agriculture, on parle beaucoup de la problématique de l'adaptation des normes, surtout des normes européennes. Est-ce que, notamment dans les discussions que vous avez eues dans le cadre du comité de pilotage, ou que ce soit avec l'enseignante, puisque vous avez pu visiter le PLE, j'imagine que vous siégez au conseil d'administration de le PLE. Est-ce qu'en termes de normes, il y aura une problématique ou est-ce qu'il n'y a pas de trop grandes difficultés d'adaptation?
Non, pas du tout. Au contraire, ça permet de faire entre guillemets du benchmark, c'est-à-dire de comparer les différents. Derrière ce mot barbare, ça veut dire on compare un peu les différents systèmes. Vous savez, c'est comme, je vais prendre mon petit cas personnel. Moi, j'ai fait une année d'échange à Rio. J'étais étudiant en droit, j'ai été faire un an de droit à l'université de Rio. Le droit français et le droit brésilien ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, on ne va pas appliquer du code civil brésilien lorsqu'on rentre à Paris. Et qu'on va devenir avocat à Paris. Est-ce que ça veut dire que c'est pas intéressant? Il y a une différence de normes. Est-ce que ça veut dire que c'est pas intéressant d'aller se confronter justement à la norme différente, à voir ce qui fait après, ce qui se fait ailleurs, et après de s'enrichir de ça? Et quand on rentre à Paris ou ailleurs, ou en Guyane ou peu importe, en tout cas sur un endroit où on fait du droit français, et de voir un peu les différences, ça permet de mieux comprendre notre fonctionnement, et ça permet aussi, si on voit qu'ailleurs, eh ben on fait mieux, c'est quand on rentre chez soi, on dit, bah écoutez, à côté, ils font peut-être mieux, peut-être que ça serait intéressant de modifier ce qu'on fait chez nous, ou vice-versa. On se rend compte souvent qu'on fait des choses pas mal, lorsqu'on va à l'étranger, et qu'on se dit, ah mais finalement, les techniques qu'on met chez nous, les normes qui sont chez nous, elles sont quand même bien pensées. Donc, c'est se confronter à ce que les autres font, se confronter à la différence, ça permet soi-même de grandir et de s'améliorer. Parce que ça permet d'intégrer des choses qui sont, comme je le disais, peut-être mieux à l'extérieur. Et ça permet aussi d'améliorer les process qu'on a chez nous. Moi, je suis, vous savez, je fais partie des gens qui pensent que c'est très important de laisser aux étudiants le choix. S'ils veulent se former ici, qu'ils se forment ici. S'ils veulent se former ailleurs, qu'ils se forment ailleurs. Et s'ils décident de se former ici, alors qu'ils aient la possibilité, pendant une période donnée, une semaine, deux mois, un an, d'aller se confronter à l'autre. Parce qu'en se confrontant à l'autre, on grandit et on s'améliore. Et on permet au territoire aussi de s'améliorer. J'en suis convaincu.
Donc on a un petit peu anticipé entre guillemets cette question. Qui peut bénéficier du programme et comment? On sait que il y a forcément oui les étudiants, les élèves de le PLE, donc du lycée Matiti, mais il y a aussi des personnels, enfin du personnel.
C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire la différence entre étudiants et apprenants. Parce que ça a vocation aussi à ce qu'ils participent des professeurs, des formateurs, pas uniquement des étudiants. Parce que c'est aussi important que on se forme. Vous le savez, on se forme tout au long de la vie. Une fois de plus, hein, je donne mon cas personnel. Moi, j'ai repris un master 2 à l'âge de 30 ans parce que on a toujours capacité de s'améliorer, d'avoir des nouvelles connaissances, aussi de se mettre à jour. Parce que ce qu'on apprend il y a 20 ans, eh ben, on le voit aujourd'hui, on vit dans un monde qui va tellement vite. Et les normes, on parlait des normes, les normes changent en permanence. Moi, j'ai fait du droit de l'urbanisme à la fac quand j'avais 22 ans, si j'ouvre un code de l'urbanisme, il y a un tiers de la législation qui a changé la réalité. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui évolue, donc c'est important de pouvoir se former tout au long de sa vie. Donc les étudiants sont destinataires, sont les bienvenus, mais aussi les formateurs qui peuvent bénéficier de ces fonds-là. Au total, les fonds vont permettre de faire partir 120 à 150 personnes. Sur ces 120 à 150 personnes, il y aura deux tiers d'étudiants, un tiers de formateurs. Et là, d'ailleurs, le contingent des 10 premiers élèves devrait partir dans les semaines qui viennent. On est en train de finaliser ça.
Donc, le fait de donner la possibilité aux formateurs et aux encadrants de se former, c'est ça la légère différence avec les programmes qui sont déjà installés?
Oui, c'est une différence. En sachant que sur le programme Erasmus, contrairement à une idée reçue, ne s'adresse plus uniquement aux étudiants. Par exemple, Pôle emploi permet aussi de financer de la mobilité sur les programmes Erasmus+. Donc,
mais là, ici, on est sans limite d'âge, c'est ça?
C'est ça.
Exact.
Exactement.
En termes de partenariat, puisque on a évoqué les partenaires tout à l'heure, quels sont les retours que vous avez eus de la part des institutions de la filière, qui sont d'ailleurs cette filière qui est en plein développement, est-ce qu'ils ont accueilli la nouvelle de l'ouverture de ce programme avec beaucoup d'enthousiasme?
Tout le monde est très très enthousiaste. Il y a la filière guyanaise, la filière agricole guyanaise, elle est confrontée à un défi qui est celle
de la structuration.
Aujourd'hui, on a plein de bonnes volontés, on a plein de belles choses qui sont en train de se faire. Il faut qu'on arrive à structurer et à professionnaliser nos filières. Parce que, par exemple, on ne marche pas à certains fonds européens parce qu'on n'a pas les capacités de répondre aux demandes de la Commission européenne. Et on a besoin d'avoir... Et d'ailleurs, c'était la question, vous savez, on a eu une autre bonne nouvelle, c'est qu'on avait débloqué 1 million d'euros avec la Chambre d'agriculture et le président de la CTG pour financer 18 postes encadrants de techniciens pour la filière. Et c'est toujours les mêmes enjeux. C'est professionnaliser la filière, former nos jeunes et faire en sorte qu'on structure cette filière et qu'on permette à la filière de répondre aux enjeux de développement, de se développer et de répondre aussi aux attentes des Guyanais, du coup.
Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs ou d'autres opérations comme celle-ci qui sont possibles ou auxquelles vous avez déjà pensé, puisque on sait qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place sur d'autres domaines en ce qui concerne que vont toucher d'autres filières, comme par exemple pour les métiers de la mer, c'est ce qu'on espère, donc on vous pose la question, et pour lesquels, pour l'instant, il y a, alors là, on a la base de l'EPLE de Matiti, mais pour lesquels on n'a pas d'institution pour l'instant.
Sur les métiers de la mer, alors il y a 10 jeunes qui sont actuellement à Boulogne-sur-Mer, qui se forment, qui sont partis se former. D'ailleurs, ma collègue Christiane Barbe, qui est l'élu en charge de l'agro-industrie, les suit extrêmement activement. Elle les a même accompagnés à l'aéroport, pour vous dire vraiment qu'on les suit vraiment pas à pas. Elle est en relation directe avec eux. Donc, ils sont allés se former à Boulogne-sur-Mer. Donc, il y a des dispositifs qui existent. La CTG les accompagne. C'est une opération qui a été faite aussi avec l'investissement de la CTG. On travaille à plusieurs dispositifs. Vous savez, la mobilité. De toute façon, le président l'a dit lors de la présentation du ROB. Le ROB, c'est le rapport d'orientation budgétaire. Il y aura deux grandes orientations pour les prochaines années pour la CTG. C'est la jeunesse et la santé. D'ailleurs, cette année, c'est l'année européenne de la jeunesse. Et le président l'a dit, il a été clairement. J'étais dans une réunion encore hier avec Muriel Briquet, qui est l'élu, qui est délégué à la jeunesse. Et aussi avec ma collègue Bernadette Duclona-Constant, qui est l'élu à la citoyenneté. Le président veut faire de cette année 2022 l'année guyanaise de la jeunesse. Donc ça, c'est une priorité absolue. Dans ce cadre-là, on travaille sur pas mal de choses qui seront annoncées dans les semaines qui viennent, mais avec aussi un focus sur la question de la mobilité, puisque là, on est en plein dedans, on est sur la mobilité des apprenants agricoles. Mais là, on travaille déjà sur la question de la mobilité des personnes en situation de handicap, des personnes à mobilité réduite, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même des freins à ces personnes-là qui ont des appréhensions avec des programmes qui ne sont pas forcément adaptés. Donc là, on est en train de travailler à voir comment on peut mettre en place un programme de mobilité pour ces publics-là, parce que c'est des publics... on avait encore une conférence, je crois que c'était mardi, sur le sujet dans le cap de handicap Amazonie, pour montrer tous les potentiels des personnes à mobilité réduite en Guyane qui sont aussi capables et aussi qui ont les mêmes droits que les personnes qui sont valides. Donc on travaille à ce projet-là. Et après, moi, je travaille, j'espère pouvoir l'annoncer dans pas très longtemps, mais je travaille aussi sur la question du retour des forces vives et donc de la mobilité, mais de la mobilité dans le sens inverse. C'est-à-dire que les étudiants, quand ils vont rentrer après leurs études, et les Guyanais qui souhaitent venir participer à la construction du pays Guyane, comment on les accompagne. Donc ça,
donc
je travaille aussi dessus.
Le retour des cerveaux ?
au retour des cerveaux, si vous voulez dire. On préfère dire retour des forces vives, mais c'est un dossier sur lequel on travaille activement. On avance très vite et j'espère pouvoir vous annoncer de très très belles choses. Le président a déjà commencé à valider des choses la semaine dernière et j'espère très rapidement pouvoir vous annoncer ça, mais vous saurez tout. J'aurai le plaisir de venir le dire une fois de plus sur Mayuri Campus.
Travailler sur la mobilité pour répondre aux besoins en formation ?
Pour répondre aux besoins en formation, avec l'idée de dire que c'est pas parce qu'on travaille sur la mobilité qu'on ne travaille pas sur l'offre de formation locale. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir le choix. C'est pas de dire ah ben comment on peut pas se former localement, et ben on laisse tomber et on envoie nos jeunes se former à l'extérieur. C'est de dire qu'on travaille sur le fait d'avoir le choix, de permettre au maximum à nos jeunes et moins jeunes de se former sur leur territoire, mais leur permettre aussi d'aller se confronter à l'autre, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller voir les différents process, différentes techniques, pour pouvoir rentrer avoir emmagasiné toutes ces connaissances et de rentrer pour participer à la construction du pays, quoi.
On est toujours dans la même question. Est-ce que vous avez des objectifs, des ambitions en termes de formation auxquels justement Interreg ou d'autres fonds européens par exemple, donc que ce soit avec nous, enfin, on parle d'Interreg, donc ce sera avec nos voisins ou d'autres fonds européens pourraient répondre.
Alors, vu que dans le cadre de, l'année européenne de la jeunesse, il y a une ambition, il y a une promesse de la Commission européenne d'augmenter sensiblement les fonds d'Erasmus+. Il y a 8 millions d'euros supplémentaires pour la France qui sont mobilisés. Nous, à la CTG, on est en attente parce qu'il y a un délégué national qui doit être nommé. Normalement, c'est censé être fait pour le mois de février. Donc, on attend cette nomination pour voir comment on peut travailler pour faire émerger des projets, justement, du territoire. Je vous parlais de ce projet qu'on a sur la question de la mobilité des personnes en situation de handicap. Ça rentre dans ce cadre-là. On essaie de voir comment on peut le faire rentrer dans le cadre de ces fonds Erasmus+ supplémentaires. Donc absolument, on est en train de voir comment on peut faire financer tout ça. Et puis à côté, sans parler des fonds européens, mais là il faudra plus inviter mes collègues Philippe Bouba pour la question de l'enseignement supérieur ou de la formation, Madame Karine Cresson, qui eux aussi travaillent avec l'université, avec les différents partenaires, à voir comment on peut améliorer l'offre de formation. Tout à l'heure, vous parlez des métiers de la mer. On est aussi en train de travailler, je sais que vous avez eu une émission sur la question des métiers de l'hôtellerie, des métiers de bouche. C'est aussi un sujet sur lequel on est en train de discuter. On travaille notamment avec la Chambre de commerce qui est très activement sur ce dossier-là. On travaille avec des chambres de commerce de l'Hexagone. On travaille avec différents partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut faire émerger une offre de formation ici en Guyane sur les questions de l'hôtellerie. On a aussi la question des filières sur le bois qui se pose puisque... La filière bois réclame à ce qu'émergent des formations. Il me semble, je ne dis pas de bêtises, il me semble que dans le cadre de la cité scolaire de Saint-Georges, il devrait y avoir un BTS bois qui sera proposé. Donc on est en train de travailler avec les différents partenaires pour faire émerger des filières qui répondent aux besoins du territoire. Parce que ce n'est pas le tout d'aller mettre des filières. L'important, c'est de mettre des filières où derrière, on sait que lorsque l'étudiant va sortir avec son diplôme, il va pouvoir trouver du travail. Moi, je vais vous dire un truc, on travaille, comme je vous l'ai dit par exemple avec la filière bois, nous on leur demande, bon, combien de personnes formées vous êtes en capacité d'embaucher chaque année ? Parce qu'on ne va pas aller envoyer des gens dans un BTS avec une classe de 25 personnes, et sur les 25 personnes, il y en a 4 qui vont trouver du travail, et il va y en avoir 21 qui vont se retrouver sur le carreau avec un diplôme qui est très spécialisé. Alors je prends la filière bois, mais ça peut être la filière pêche ou peu importe, des métiers où les diplômes sont très spécialisés, mais avec derrière une filière qui n'est pas capable d'embaucher la totalité ou la quasi-totalité des diplômés. Donc c'est un gros travail qui est fait, c'est un travail qui est fait par la CTG, c'est un travail qui est fait par le rectorat, et c'est un travail qui est fait avec les filières.
On arrive doucement à la fin de l'émission, mais j'ai encore deux ou trois questions dans mon sac. C'est l'année de la présidence européenne de la France et justement à l'approche de l'échéance électorale présidentielle. Hein, on en a beaucoup parlé, enfin on en a beaucoup entendu parler. Est-ce qu'il y a un impact pour, on va dire, le pôle Europe de la CTG ou en tout cas... en ce qui concerne l'attribution des fonds européens ou la gestion des fonds européens, la nouvelle programmation, enfin.
C'est sûr que le fait d'avoir la présidence française de l'Union européenne, ça permet de mettre les sujets guyanais, européens guyanais, au centre de l'agenda. On a des spécificités. Vous savez qu'on a, outre la question des fonds européens, parce que l'Europe en Guyane et la question européenne en Guyane, ça ne se résume pas juste aux fonds européens, c'est aussi beaucoup la réglementation. Vous savez, 50% de notre droit ici en Guyane, en fait, émane de Bruxelles, que ce soit à travers les règlements qui s'appliquent directement ou que ce soit à travers les directives qui sont intégrées au droit français par le Parlement.
Donc on dira l'Europe en Guyane.
Donc l'Europe en Guyane, c'est dans notre quotidien. Donc il y a une question dont on parle souvent, tout à l'heure vous parliez des normes européennes, mais une question qui revient, c'est la question de l'adaptation des normes européennes. De la même façon à ce que souvent on dit que les lois qui sont votées à Paris ne sont pas adaptées au contexte guyanais, on fait exactement le même reproche à Bruxelles de dire les lois qui sont, les règlements et les directives qui sont adoptées par Bruxelles ne sont pas forcément tout le temps adaptées, notamment un sujet qui est vraiment emblématique, c'est la question des déchets. On a le règlement déchets qui s'applique ici en Guyane, alors qu'en réalité, en milieu amazonien, à Camopi, la règlement européenne déchets s'applique avec toutes les difficultés que vous imaginez. Donc oui, ça permet de mettre en avant ces problématiques-là. Alors, on ne va pas rentrer, mais comme on est sur la radio du savoir, on va être un peu technique aussi. L'article, il y a plusieurs articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui permettent d'adapter les règlements. On est en plein dedans. Il y a un événement à Marseille, les 2 et les 3, qui est le sommet des villes et des régions européennes qui aura lieu à Marseille. On sera présent et ce sera notamment l'occasion de mettre sur la table la question de la réforme de la directive RED et qui, dans l'état actuel, ne répond pas aux enjeux de la transition écologique. Pour que les gens comprennent très bien, la directive RED, c'est la directive européenne sur les énergies renouvelables et la transition écologique. Et aujourd'hui, les propositions qui sont faites par Bruxelles ne correspondent pas aux problématiques qu'on a en Guyane. Donc nous, à la CTG, on travaille avec, d'ailleurs, le premier VP qui est actuellement dans l'Hexagone, qui est au sommet sur les océans, notamment pour porter la question de la pêche illégale. Avec lui, on travaille à des amendements sur ce projet de directive. Et donc, on sera à Marseille pour que ce sujet soit abordé. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment une opportunité pour nous de faire du sujet guyanais, et notamment de cette question de l'adaptation des normes, un sujet de l'agenda européen.
Je vous remercie. Vous connaissez notre dernière question. On est en pleine période de carnaval, donc on peut imaginer qu'on se déguise. Hein. On vous met un chapeau et une baguette magique dans les mains. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre domaine, que ce soit attribution, peut-être une attribution de plus de moyens, que ce soit en termes de formation, en termes de mobilité pour notre jeunesse. Qu'est-ce que vous souhaiteriez de plus ou qu'est-ce que vous ambitionnez?
Moi, je vais pas parler de moyens puisqu'on vient de débloquer 1,2 million d'euros.
Donc vous êtes content.
En tout cas, je suis satisfait parce que ça a été un long combat et c'était pas gagné d'avant. Par contre, ce que j'aurais souhaité si j'avais une baguette magique, et je vais même pas avoir besoin de magie parce que c'est quelque chose qui est totalement faisable, c'est que nos jeunes, en règle générale, aient de l'ambition. Souvent on fait croire aux jeunes Guyanais que l'ambition c'est quelque chose de mal. On dit ah, regarde celui-là, il est le jeune ambitieux, alors que on a tout sur ce territoire, tout pour devenir une terre d'excellence. Nous sommes déjà une terre d'excellence. Nous sommes une terre d'excellence en matière spatiale, nous sommes une terre d'excellence en matière de recherche, notamment une terre d'excellence culturelle. On a tout. La seule chose qui nous manque peut-être un petit peu, c'est de l'ambition personnelle et de l'ambition collective. Aujourd'hui, on parle de mobilité étudiante, c'est pour devenir s'améliorer, devenir excellent. On a toutes les cartes en main pour devenir excellent en matière agricole. On parlait d'agroécologie. Donc ce que je souhaite, et qui ne relève pas de la magie, je sais qu'on va arriver, c'est que chacun d'entre nous, en particulier la jeunesse, soyez ambitieux, ayez la mesure de votre potentiel, de ce que vous êtes capable.
Merci Thibault Le Chavega d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et nous appelons de nos voeux que notre jeunesse ait entendu votre message.
Je suis sûr qu'elle a entendu le message et je suis sûr qu'elle nous réserve de très 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 belles choses.
et de très très belles surprises positives. C'est tout ce qu'on espère. Retrouvez ce live sur tous nos réseaux. Et bien sûr, on se retrouve, nous, comme d'habitude, la semaine prochaine avec de nouveaux experts et un nouveau sujet.
À très bientôt.